En tout cas, il me semble que ce petit aparté d'aménagement a du coup mis une très bonne humeur pour aborder un sujet qui n'est pas forcément évident, avec ce beau soleil et ce décor absolument idyllique, puisqu'on va parler donc de la mort. C'est le sujet des romans, des trois romancières qui sont réunies, trois femmes. Ça n'est peut-être pas un hasard, on verra si les femmes, effectivement, ont tendance à peut-être plus facilement aborder ce sujet-là. Je vais quand même commencer par faire des toutes petites présentations extrêmement rapides, même si vous connaissez un peu, je pense, les trois romancières en question. Catherine Cusset, vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de lettres. Vous avez enseigné la littérature française à l'université d'Yale avant d'arrêter la carrière universitaire. Vous vivez depuis une vingtaine d'années aux États-Unis et vous êtes l'auteur d'une dizaine de romans qui sont parus chez Gallimard. J'en cite simplement quelques-uns. La blouse roumaine, qui était parue en 1990 dans la collection L'Infini et qui a un peu marqué votre entrée sur la scène littéraire. Et puis encore quelques titres. La haine de la famille, c'était en 2001. Un brillant avenir en 2008.
Je vous arrête une seconde parce que La blouse roumaine n'a pas du tout marqué mon entrée. Enfin, c'était mon premier roman, mais ça a été un flop total.
Mais il a quand même marqué votre entrée.
Il s'en est vendu 350 exemplaires.
Mais ça n'a rien à voir, ça.
Traumatisée.
Oui, mais c'est autre chose.
C'est un livre qui a apparu, qui pour moi dans ma vie était comme ça essentiel, et qui a disparu. Enfin, il a apparu, disparu, personne ne l'a remarqué. Alors, voilà.
Mais il figure quand même comme étant le titre qui a marqué votre entrée sur la scène littéraire. C'est toujours la formule consacrée pour dire qu'il s'agit d'un premier roman. Donc voilà. Et puis je pense qu'il a été lu après coup, même si sur le moment il ne l'a peut-être pas été, mais il a été lu ensuite. En tout cas, moi, ça a été mon cas, je l'ai découvert par la suite. Un brillant avenir, ça c'était en 2008, Indigo en 2012, une éducation catholique en 2014. Et puis donc le dernier en date, celui dont nous allons parler ce matin, s'intitule L'autre qu'on adorait, toujours aux éditions Gallimard. Claudine Hourrier, vous êtes peintre et écrivain, vous vivez pas très loin d'ici, dans le Jura bernois. Vous êtes auteur de romans, notamment en 1998, Le Ravaudage de l'âme. En 2003, L'étoffe des songes, également auteur donc de nouvelles. Je cite juste un recueil. En 1995, L'invitation de l'ange. Et votre dernier roman s'intitule L'enlèvement. Il est paru aux éditions Luce Vilquin. Et puis Marie Laberge, dramaturge, comédienne, metteur en scène, romancière. Parmi vos pièces les plus connues, on se souvient de L'homme gris, qui avait été joué un peu partout en Europe. Il y avait aussi une autre pièce qui a fait une très belle tournée qui s'intitulait Le Faucon, qui avait notamment été présentée, je me souviens de ça, au Festival des Francophonies à Limoges. Voilà, mais ça monte à quelques années. Votre premier roman, Juillet, est paru en 1989. Et depuis, vous avez écrit de nombreux textes, donc bien sûr, je ne vais pas les citer, mais quand même quelques titres. Revenir de loin aux éditions du Boréal, ça c'était en 2010. Et puis, Ce qui reste, le roman dont nous allons parler aujourd'hui, vient de paraître aux éditions Stock. On va peut-être commencer par présenter votre roman, Marie Laberge, parce qu'il a pour point de départ un suicide, le suicide d'un très jeune homme, puisqu'il a 29 ans, et qu'il s'en va sans aucune explication. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans votre roman, c'est qu'il s'agit d'observer la reconstruction des proches qui ont été donc affectés par la disparition de cet homme, davantage que du suicide lui-même. C'est-à-dire que... On finit même par l'oublier au bout d'un moment. Ce qui finalement nous importe, c'est de voir comment chacun des proches, les parents, la femme, la maîtresse, autour de Sylvain Côté, vont réapprendre à vivre après ce geste-là. Donc c'était un parti pris de...
Profond.
Oui, c'est ça.
C'était un parti pris total. Ça, c'est sûr que je ne voulais pas. Pour moi, le suicide était l'acte qui était le prologue. Mais après, pour moi, j'allais pas entrer dans ce qui est une étape pour beaucoup de gens, chercher la raison, expliquer les secrets, fouiller la parole de quelqu'un qui n'a pas parlé et qui est mort. Pour moi, ça, c'était pas ça du tout, du tout. Donc, la mort comme acte de violence sur les vivants et sur les proches qui aiment la personne qui est morte et qui se retrouvent comme ça du jour au lendemain avec ce que j'appelle la brique dans le front. Et avec leur vie à peu près démolie, détruite, mais leur vie quand même. et leur vie et le courage que ça prend et la force de la vie pour retourner dans la vie, pour reprendre et pour apprendre de la mort et de la violence. Parce que pour moi, c'est quelque chose de déterminant. Ou ça nous tue ou ça nous améliore. Alors, j'ai préféré s'améliorer parce que je pense que... parce que je suis comme ça. Mais c'est parce que je pense que c'est un des plus grands drames qu'on peut traverser. Mais c'est toutes les pertes, tous les échecs, tous les recommencements qu'on doit faire dans la vie sont aussi... je me souviens d'une dame qui est arrivée dans un salon du livre et qui m'a dit mais elle n'est pas morte, mais elle ne veut plus me parler, ma fille. » Elle dit « Est-ce que ça va quand même être bon pour moi? » Et j'ai dit « Oui, je pense que oui. » Parce que quand même, quelqu'un qui se suicide sans un mot, c'est quelqu'un qui ne veut plus nous parler, hein, ça c'est clair. Alors, je voulais vraiment axer ce livre sur la vie. Je sais que le thème de notre rencontre est la mort, mais c'est si proche.
Alors, chacun des personnages a en alternance la parole et donc occupe un chapitre, ce qui fait que, bien évidemment, cette disparition est éclairée de différentes façons. Et chacun ayant eu une relation singulière avec ce disparu, bien évidemment,
oui, on partageait pas ses récits.
Voilà, il partageait pas. Donc, le père. Alors, le père, c'est intéressant parce qu'il a une attitude qui, j'imagine, est assez fréquente dans ces cas-là, qui est l'attitude de la culpabilité. Il se sent coupable de ne pas avoir vu, de ne pas avoir
tout
repéré.
Tout le monde se sent coupable. Ça,
mais
c'est
lui,
la première
le formule.
Chose.
Lui, ouais, le formule.
Lui en parle. Lui en parle, mais c'est surtout aussi vis-à-vis lui-même qui se sent coupable, parce que c'est un espèce de romantique, un homme qui a cru des choses, qui s'est comme inventé un héroïsme personnel dans sa vie, avec du renoncement, parce qu'il tombe en amour avec une autre femme, il n'est pas allé, puis tout ça. Il s'est inventé, finalement, pas mal de qualités. Et à la mort de son fils, je dirais que tout ce qui était un peu surfait dans sa vie et dans son esprit éclate. Et ça permet de... Lui, en tout cas, ça lui permet d'aller vers la vérité. Et c'est vrai qu'il y a une culpabilité, mais c'est pas tellement ça comme qu'est-ce qu'il a fait lui-même de sa propre vie. Son fils le renvoie à lui, dans sa faute, mais aussi dans ce qu'il peut faire. Et il ne fait pas du tout un appel à la mort. Il fait un appel à la vie. Il s'en va vers sa propre vie. Il change beaucoup. Ça le change du tout au tout. Et c'est un homme qui est tout près de la retraite, et qui accélère sa retraite et qui s'en va dans le bois, dans un bois pas du tout policé, pas du tout discipliné ni manucuré. C'est un vrai bois. Et il s'en va finir de construire la maison dans le bois qu'il voulait faire de toute façon à sa retraite. Mais cette espèce de... Et il revient de temps en temps en ville. Mmh. Et là, quand il revient en ville, il s'en va souvent visiter un bar qui est un bar tenu par la femme, et il l'ignore, qui était la maîtresse de son fils.
Voilà. Donc il va y avoir des croisements entre les...
Beaucoup de croisements.
Voilà, entre les survivants. Le père pense une chose, et ça c'est peut-être important, parce que vous disiez, cet homme se suicide sans laisser aucun mot, et le père pense que son fils s'est tué parce qu'il s'est tué, parce qu'il n'avait pas les mots pour dire les choses. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir la parole pour dire, parfois, ça peut être absolument terrible.
Ah non, c'est sûr que c'est être mutique, c'est blessant. Et c'est sûr que ça aide pas à se comprendre ou à comprendre quelque chose. Mais je pense que le père passe par toutes sortes d'interprétations. C'est vrai qu'il passe par le silence de son fils. Après ça, il passe par sa mère. Après ça, il passe par sa grand-mère. Il passe par tout ce qu'il peut trouver pour éclairer quelque chose qui ne sera jamais éclairé, jusqu'à ce qu'il comprenne que le silence de son fils, c'est tout ce qui lui reste à respecter de son fils. Mmh. Et ne plus inventer quelque chose qui va peut-être lui permettre de mieux vivre, mais qui va être encore loin de la vérité. Et il a décidé d'habiter la vérité. Alors, c'est complexe, parce que son chemin est ardu, mais il est quand même intéressant, parce que c'est quelqu'un de très, très structuré mentalement. C'est quelqu'un qui cherche et qui est très... il est volontaire. Non, c'est sûr que... Et puis, en plus, il y a quelques surprises dans sa vie.
Oui.
Oui, parce que la vérité, c'est surprenant.
Il y a un personnage qui est central dans le roman, qui est cette femme qui a été la maîtresse de Sylvain, qui s'est suicidée, qui est serveuse dans un bar.
En fait, elle est barmaid.
Elle est barmaid.
Excusez-moi, mais c'est pas serveuse.
Comme on dit à Montréal, elle est barmaid.
Non, c'est parce que la serveuse, on en a des serveuses. La serveuse va du bar au client.
Non, elle prépare cocktail.
Au bar.
Elle est au bar.
C'est la barmaid.
Voilà. Elle bouge pas.
Comme on a un barman, on a une barmaid.
Voilà.
Et c'est comme une science supplémentaire.
Absolument.
Et c'est une science de l'être humain supplémentaire parce que les gens.
Elle reçoit les confidences.
Oui, parce que les gens qui viennent au bar s'assoient là et lui parlent à elle. Ouais. Alors qu'on ne parle pas à la serveuse.
Ouais, ouais.
Rarement.
Voilà. Et elle joue le rôle de la confidente dans le roman parce qu'elle va devenir l'amie, la confidente.
Je ne suis pas sûre qu'elle soit une bonne confidente. C'est sûr qu'on lui parle, mais c'est une femme qui a son franc-parler à elle. Et ce n'est pas quelqu'un qui va se laisser abuser. En fait, la vérité s'appelle probablement Charlène, parce que c'est une femme qui ne transige jamais avec les faux-semblants, avec les petits drôles, ou tout ça. Alors, mais c'est vrai qu'elle est centrale. Elle est centrale parce que sa relation avec cet homme-là qui s'est tué était... pas juste sexuelle, mais elle était quand même une joyeuseté sexuelle assez intéressante. Mais... non, mais vous savez, hein, quand ça marche, ça marche. Mais en même temps, c'était quand même un grand secret, cet homme-là. Il était tout aussi fermé. Alors, je dirais un athlète du matelas qui a pas réussi à parler. Mais... c'est pas mal, hein? ça vous fait rire. mais c'est vrai que c'est une femme qui n'est pas une femme d'aveu. Alors, c'est pas une femme qui va parler facilement. Mais elle écoute, puis elle l'apostrophe. Elle, c'est elle qui parle à lui. Parce qu'elle est furieuse. Parce qu'elle ne prend pas du tout son geste. Et c'est pas la pitié qui l'anime. C'est la rage. Une rage très saine, si on considère ce geste.
Elle va devenir aussi, et là donc du coup, le bar dans lequel elle officie va devenir un lieu central. Elle va devenir également la confidente, puis l'amie du fils, alors qu'il lui ignore tout des conditions dans lesquelles son père est mort. Ça lui a été soigneusement caché par une mère. Par une mère très possessive, très envahissante.
Mère totale.
Une mère absolue.
Et fatale.
ouais. Et le fils ne sait pas que son père s'est suicidé.
Et la barmaid ne sait pas que cet homme est le fils de son amant. Ça aussi, c'est important. Mais on arrête là parce que je ne veux pas qu'on dise les secrets. Il y a tellement raison. Il ne faut pas dire les choses parce que j'ai travaillé fort pour vous réserver des surprises.
Non. On campe juste quelques personnages.
On peut dire que le bar est
tout.
Un endroit où passent beaucoup de gens et que ces gens ont tous quelque chose à faire et à voir avec la mort par suicide. On peut dire ça.
Voilà. On va présenter les deux autres romans, si vous voulez bien, puis après, on aura une conversation peut-être un peu plus ouverte. Catherine Cusset, votre roman à vous est également un roman... qui, comme celui de Marie Laberge, aborde la question du suicide. Mais à l'inverse du roman précédent, vous vous intéressez aux gestes du suicide et aux raisons qui l'ont déterminé. Parce que le roman est au fond une reconstitution de la vie de Thomas, donc, que l'on trouve chez lui. Il s'est suicidé à l'âge de 39 ans. Homme brillant, universitaire dans une université donc américaine, et le roman est en fait une remontée du temps pour essayer de voir peut-être cette mécanique implacable qui a conduit cet homme qui avait peut-être on aurait tendance à dire tout pour réussir et qui arrive à ce geste fatal.
Oui, c'est vraiment... C'est drôle, c'est exactement l'inverse.
C'est l'inverse de ce qu'a fait Marie Laberge.
J'ai tout de suite vu votre livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai tout de suite vu. Je l'ai regardé tout de suite. Je pensais, ah, ça, c'est incroyable. C'est vraiment un livre sur le même sujet. Mais alors, il y a l'amont et l'aval. Quoi. C'est
voilà,
l'autre côté.
Exactement.
Et vous savez, moi, j'ai un peu hésité, d'ailleurs, parce que donc, c'est basé sur la vie d'un ami à moi, hein, d'une personne réelle, qui était très proche de moi... parce qu'on avait des vies parallèles, puisque donc il était français et vivait aux États-Unis et a enseigné à l'université comme moi. Donc on avait des vies entre la France et les États-Unis très parallèles. Et en même temps, c'est un ami, donc c'est compliqué un ami. C'est pas comme un frère, un amant, un fils, un père. C'est pas aussi proche. On a chacun notre vie, on se perd de vue pendant des années. Et je savais donc pas énormément de choses de sa vie au bout du compte. Je le savais quand on avait 20 ans, parce que oui, à un moment, on est sortis ensemble, parce qu'il a été mon ami le plus intime, puis on s'est séparés. Donc j'aurais pu raconter tout ça. Et en fait, pour des tas de raisons que j'expliquerai pas, j'ai quelque chose d'autre s'est passé. J'ai eu une intuition très très forte de sa souffrance, parce que j'ai essayé d'écrire ce livre sur sa mort, puis je ne suis pas du tout arrivée pendant des années. Il est mort en 2008. Et il y a, je crois, un an et demi, deux ans, un moment, j'étais à la piscine et j'ai vraiment eu une sorte d'intuition, une voix que j'ai entendue. Donc, je m'adressais à un tu, mais C'était comme un tu à l'intérieur de lui. C'était vraiment une voix à l'intérieur de lui. Et j'ai eu l'intuition de la souffrance et de la solitude de ce garçon que j'ai appelé Thomas, qui était quelqu'un, vous l'auriez connu, c'était le plus joyeux des vivants. C'était un garçon d'une exubérance, d'une vitalité, d'une énergie. Il arrivait dans une pièce, il serait là, il électrisait la pièce entière. Il avait une énergie, à la fois, je sais pas comment dire, une énergie sexuelle, une énergie intellectuelle. Il était dans le jeu de mots, il adorait tout de la vie. Il adorait le vin, les femmes, la nuit, la littérature, la musique. Il avait une passion pour la musique, c'était un vrai mélomane. Moi, je suis pas du tout mélomane et j'ai passé une année à écouter toute la musique que j'ai découvert. Il aimait, bon, l'opéra, la musique classique, mais surtout le jazz, Nina Simone, Keith Jarrett. C'était aussi un grand proustien. Il avait fait sa thèse sur Proust. Il adorait Proust. Et donc, cet homme qui était complètement dans la vie s'est tué à 39 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un an avant sa mort un diagnostic qui a été posé sur cette exubérance extrême et sur cette dépression extrêmement cachée que ses amis ont découvert seulement à la fin. Et ce diagnostic, vous le devinez, hein, est la bipolarité. Mais mon livre n'est pas... On est avec lui dans le livre. On commence avec lui, il a 17 ans. On évolue avec lui. Donc le diagnostic n'arrive qu'à la toute fin.
Oui, oui.
Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même très, très important parce que je pense qu'il y a une injustice sociale terrible. Et je pense aussi que ce Thomas, dont je décris la vie à partir d'un être très personnel, j'ai découvert en fait après la publication de mon livre, par les réactions que j'ai eues, que ce Thomas, il existe pratiquement dans chaque famille. Le nombre de gens qui maintenant m'ont écrit pour me dire « je connais un Thomas, il y a un Thomas dans ma famille, il y a un Thomas parmi mes amis, ce livre a fait écho en moi, ce livre me touche de trop près », c'est incroyable. Et donc c'est quelque part celui dont on ne parle pas. Et pour moi, ce livre est vraiment lui rend vie. Alors évidemment, c'est ma projection, c'est mon intuition. D'ailleurs, je commence avec une citation de Proust en prologue, enfin en épigraphe. Je dis vraiment, on ne connaît pas l'autre. C'est l'autre n'est qu'une projection de notre. On projette sur lui l'amour, la haine. C'est pas évidemment le vrai ami. D'ailleurs, j'ai changé son nom. Mais en même temps, avec une intuition très forte, et j'ai essayé de rester à l'intérieur de lui et de voir se dérouler cette chose, en effet, qui est de l'ordre de la mécanique implacable. Et je ne crois pas du tout que la mort était jouée d'avance. Elle l'était, d'une certaine manière, mais elle ne l'était pas aussi. Et il y a un enchaînement de circonstances, qui est un enchaînement de circonstances terribles, et que j'ai pu retracer, retrouver une à une, justement parce qu'on avait des vies tellement parallèles.
Cette phrase de Proust à laquelle vous faisiez allusion à l'instant, c'est très sensible dans le roman, parce que c'est vraiment ce que l'on ressent, c'est-à-dire que Proust dit qu'au fond, nous ne savons rien des autres. Il emploie le terme d'ombre, d'ailleurs, en disant que les autres ne sont que des ombres dont nous n'avons pas une véritable connaissance, en tout cas pas une connaissance directe. Et je trouve que votre roman restitue très bien ça, la complexité d'un être humain, y compris pour la narratrice, qui est quelqu'un malgré tout d'assez proche de Thomas, même si vous le disiez, il y a eu des périodes d'éloignement, la complexité pour arriver à comprendre ce qui se passe dans la vie de quelqu'un que l'on voit en train de se détruire au fur et à mesure.
Et alors, je n'ai pas du tout cherché à analyser, à expliquer ou à comprendre.
Non.
Comme le disait très bien Marie Laberge, on ne peut pas donner vraiment, mettre des mots, donner une explication. J'ai essayé de me placer à l'intérieur. À l'intérieur de la souffrance de quelqu'un qui voit, en effet, enfin qui lutte, hein, il lutte pour la vie tout le temps, hein, Thomas, hein, il essaye. Et puis alors, il y a aussi l'Amérique, hein, mon livre est aussi une peinture de l'Amérique. Il part à 23 ans car il a la chance d'avoir une bourse pour étudier à Columbia, hein, c'est quand même c'est une chose extraordinaire. On en rêve tous pour nos enfants. Si on est un jeune, on en rêve. New York s'ouvre à lui et New York est à ses pieds, c'est une merveille. Alors, il décide de devenir un universitaire parce que l'université américaine, mais c'est luxueux, c'est quelque chose de... L'argent est là, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, il y a toute cette richesse extraordinaire et qui, petit à petit, disparaît, s'en va, parce qu'en fait, quelque part, l'Amérique est très, très dure. Contrairement à la France, je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe en Suisse, mais aux États-Unis, quand on cherche un poste donc, à l'université ou dans un tout autre métier, d'ailleurs, on n'a pas un poste ensuite à vie. C'est un poste d'assistant de professeur. Ce sont des sièges éjectables. Et donc, mon Thomas est sans cesse sur un siège éjectable. Et pour des raisons qu'il ne comprend pas, il est éjecté. Et ça se passe à répétition. Et c'est terrible. Hein, parce qu'on a besoin de travailler pour vivre. On ne peut pas se retrouver hors de la société. On peut être quelqu'un de merveilleux, adorer la musique et la littérature. Si on vous enlève vos moyens de subsistance, que reste-t-il ?
D'autant plus que les échecs professionnels sont doublés par des expériences amoureuses qui, elles aussi, s'achèvent toujours de façon... assez terrible.
Par des échecs amoureux. Donc, il y a quatre grandes histoires d'amour dans le roman. Il y a une répétition. Là, c'est sans doute ce que moi, je savais le moins de lui, hein, parce qu'il était très secret. Puis, à un moment, il a été... Donc, l'ami en question a eu sa première grande histoire d'amour a été avec ma meilleure amie. Et donc, tout ça s'est achevé par une rupture où j'ai perdu son amitié parce que quelque part, il fallait choisir. Hein, et j'étais plus du côté de mon ami E. Il y avait une sorte de solidarité féminine. Donc, je n'ai pas su grand-chose après. Donc, mon roman a reconstitué, réinventé sur des femmes que je n'ai pas connues. Mais avec, cette intuition qui était l'intuition de ce complexe d'abandon, de trahison. Pourquoi est-ce que la rupture arrivait à répétition? Parce qu'il y a toujours un moment... Pourquoi la relation à l'autre ne se développait pas alors qu'il y avait vraiment de l'amour? Parce qu'il y avait en lui ce sentiment de trahison très fort qui, bon, je pense, est aussi lié à la maladie, puisque dans la bipolarité, il y a une paranoïa très, très forte.
Vous posez une question qui me semble importante et intéressante sur ce sujet-là, parce que vous le disiez, c'est un être de désir, un être extrêmement séduisant, et vous posez la question justement de savoir si ça n'est pas la force de son désir qui l'a conduit à sa perte, finalement.
J'en parle au tout début parce qu'il y a une histoire assez extraordinaire. Donc, il est cagneux en France à Henri IV, qui est une très bonne cagne. Hein. C'est un étudiant très brillant, aussi bon en maths qu'en en tout. Hein. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait au départ, une espèce d'excellent étudiant. Mais vous savez, ce sont souvent les plus doués, hein, ceux justement pour qui cette incapacité de vivre se déclare tout à coup entre 20 et 30 ans ou 30 et 40 ans. Et puis, il échoue à Normal Sup. Bon, vous me direz que. C'est vrai, moi je suis normalienne. Bon, ben on était 70 sur 1000 à passer. Il y a beaucoup de gens qui échouent donc. Et donc on peut très bien réussir sa vie en ayant échoué à Normal Sup. Hein. C'est pas cet échec qui vous conditionne pour la vie. Hein. Il faudrait pas croire que. D'ailleurs, le système français est quand même très élitiste. Il y a un peu une dénonciation quand même de cet élitisme aussi dans mon livre. Mais donc il se trouve donc qu'il y a ce petit incident où pour gagner de l'argent parce qu'il veut voyager en Amérique à 20 ans, il est embauché dans une sorte de réseau. C'est un peu dangereux. Il va passer le bac français pour quelqu'un d'autre avec une fausse carte d'identité et il doit passer une épreuve de bac français, juste être très moyen, et il va être payé 5000 francs. Alors à l'époque, vous imaginez, ça lui paie son voyage. Et bon, ok, c'est un peu dangereux, mais bon, après, il n'y a pas de raison, il va montrer une faute. Il n'y a pas de raison. Bon, il passe ce bac français, il ne se passe rien, il est ravi, il dit à tous ses amis, vous voyez, j'ai eu raison, personne n'a remarqué ma fausse carte, enfin, vraiment, aucun problème. Vous savez, et bac français et bac philo. Et vous savez ce qui se passe? Donc il a essayé d'être parfaitement moyen, il a fait tout ce médiocre. 20 sur 20, 20 sur 20, dans les deux matières. C'est une catastrophe, parce qu'évidemment, 2 20 sur 20, ça signale un génie. Encore qu'aujourd'hui, on met plus de 20 sur 20 en France qu'on en mettait il y a 30 ans, ou il y a 20 ans. Donc évidemment, l'inspecteur de l'Académie regarde. C'est pour un candidat qui a raté le bac 4 fois, et qui a, comme moyenne, sur son livret scolaire, 5. Ça pose problème. Donc il est littéralement cuisiné par un inspecteur de l'Académie. Qui, le garçon, le candidat, s'effondre aussitôt. Il est accompagné par quelqu'un qui dit « C'est lui l'intermédiaire du réseau, vous imaginez ?» L'intermédiaire ne se démonte pas du tout, dit « Réseau, intermédiaire, je ne comprends pas du tout de quoi vous parlez. Il m'a dit qu'il était mauvais en français. À une fête, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Patrick. Je les ai introduits l'un à l'autre. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. C'était pour lui donner des petits cours de français. Moi, je suis au courant de rien après. » Donc, il ne s'effondre pas. Et donc, mon Thomas sort indemne parce qu'il aurait pu littéralement être exclu du système scolaire français. Enfin, c'était très grave. Il aurait pu avoir un casier judiciaire. Mais la question se pose, pourquoi quand il essaye d'être médiocre, il a 2 fois 20 sur 20, d'accord c'est le bac, mais il a 3 ans de plus que les candidats ou 2 ans de plus, mais quand même il a 19 ans, 20 ans à l'époque, et pourquoi quand il essaye d'être brillant, il n'entre pas? Et se pose la question de la force du désir, du désir. Et c'est une question que pose Proust. Hein. Proust n'arrête pas de dire dans la recherche, quand on désire quelque chose, ça n'arrive pas. Mmh. Et il raconte à propos du salon de Guermantes. Le jeune narrateur, Marcel, était amoureux de la duchesse de Guermantes. Il voulait absolument être admis dans le salon de Guermantes. Il faisait tout ce qu'il pouvait. Il contacte son ami Robert de Saint-Loup. Il fait tout ce qu'il peut. Et non. Non, il n'est pas invité. Son désir est trop fort. Et au moment où il s'en moque complètement parce qu'il est tombé amoureux d'une jeune fille, les Guermantes, il en a. Enfin, il dit d'une jeune fille, évidemment, dans la recherche. Il s'agit d'un jeune homme, mais les Guermantes, il n'en a plus rien à faire. Voilà que les invitations arrivent. Et le voilà invité. D'ailleurs, il s'en moque complètement. Il ne se rend même pas à l'invitation. Il est d'autant plus désirable, d'autant plus invité. Donc, vous voyez, c'est vrai que. Mais alors, comment faire pour ne pas désirer? C'est un peu difficile. Hein. Vous avez beau vous dire allez, je ne vais pas désirer ça, mais ça ne marche pas.
Bien, on va présenter le roman de Claudine Ourrière, puis après on pourra ouvrir la conversation. Alors, chez vous, avec l'enlèvement, il ne s'agit pas d'un suicide. En revanche, il s'agit d'une mort violente, d'une mort accidentelle, celle d'une fillette de 12 ans. Et ce roman est très étrange parce que c'est le roman d'une mère qui refuse la mort de sa fille au point de l'enlever, c'est-à-dire d'être dans le déni total de la réalité de cette mort. Absolument. En dépit d'un entourage qui ne cesse de l'inciter à accepter la réalité de la disparition de sa fille. Elle refuse d'accepter que sa fille est morte. Et donc, on bascule dans une sorte d'étrangeté un peu fantastique, en ne sachant jamais, ou en doutant, en tout cas au début du roman, on ne sait pas si, c'est, au fond, cette fillette est réellement morte ou pas.
C'est vrai que je demande un pas assez difficile à mon lecteur, parce que ce roman a une dimension fantastique. Et si le lecteur, au départ, dit « Non, moi, je ne marche pas, ce n'est pas possible. Cette mère qui enlève sa fille à la mort, qui l'arrache à la mort, ce n'est pas possible. » Alors là, peut-être qu'il aura de la peine à me suivre pour le reste du roman. Le reste du roman qui se lit comme l'histoire d'une mère normale, avec les difficultés habituelles d'une fille qui grandit, qui devient impertinente, rétive. Mais au départ, donc, cette mère, son amour, elle a une seule fille qu'elle a eu beaucoup de peine à avoir. Et elle perd cette fille dans un accident avec... C'est pendant une petite course d'école, elle se nuque sur une racine en tombant mal. Et tout l'entourage, bien sûr, tout le monde est dans la douleur, mais la mère refuse. La mère refuse d'habiter cette vérité, comme vous avez dit, vous avez parlé d'habiter une vérité. Elle refuse totalement. Et bien sûr que c'est plus vivable chez elle, parce que tout son entourage essaye de lui faire entendre raison. On pense que c'est la douleur, qu'avec les mois, elle va s'habituer, elle va se résigner. Mais non, elle reste sur la défensive, elle reste... absolument sûre, et elle continue à parler à sa fille, à sortir avec elle, à lui acheter des vêtements, ce qui rend fou son mari et tout son entourage. Et la situation devient intenable. Donc elle avait fait un petit héritage longtemps avant d'un père qui avait disparu et qui avait laissé cet héritage, et elle s'était toujours dit que cet héritage, elle l'emploierait pour faire un beau voyage quand sa fille serait grande. Alors elle part, grâce à cet argent, elle essaye de montrer le monde à cette fille qui est véritable pour elle. Donc pour elle, elle est là, cette fille. Elle la voit, elle peut la caresser, elle la tient et tout, mais elle n'est visible et tangible que pour sa mère, uniquement pour sa mère. Et donc elles font ce voyage, et puis la fille grandit, et puis... Elle voudrait lui montrer les beautés du monde, mais la fille s'attache surtout à ce qu'elle essaye de lui cacher, aux injustices, parce que comme elle est invisible, quand elles sont dans un grand hôtel, elle peut se faufiler dans les cuisines, elle peut voir comment on traite les gens qui les servent, où ils logent, et elle se fait vraiment petit à petit l'idée du monde tel qu'il est et pas tel que sa mère veut le lui montrer. Et bien sûr qu'entre elles, ça crée des tensions, cela crée une animosité. Elles sont à New York une fois, elles se plaît beaucoup. Puis d'abord, ça arrange les liens entre la mère et la fille. Mais elle voit des jeunes gens, elle a envie de se joindre à eux, elle les salue, elle aimerait leur parler, elle a bien perfectionné son anglais. Et puis les jeunes gens se tournent vers sa mère, regardent dans le vide, et à chaque fois, elle est confrontée à cette non-existence. Mmh.
Le roman est construit de telle sorte qu'on a donc cette version-là du récit, avec la mère en dialogue avec sa fille disparue, mais on a aussi le regard du père, qui lui est dans la posture d'un deuil plus... disons classique, c'est-à-dire qu'il pleure sa fille, tout simplement, il va sur sa tombe, il se met à boire beaucoup, ce que font souvent les gens qui sont dans des périodes de grande souffrance. Donc on a l'autre regard sur cette disparition qui permet souvent d'ailleurs de mieux comprendre.
Oui, exactement. Voilà. On ne pourrait pas avoir uniquement le trajet de la mère qui est dans les fantasmes, le fantasme absolu. Le père, et puis le père qui retrouve aussi son beau-frère, un homme avec qui il n'avait pas beaucoup de liens, mais qui s'avère être très, très utile et très, très, très cher et très... proche de lui, un type qui vit en Finlande, qui s'occupe de bûcheronnage. Et c'est pour le mari de cette Clara un très grand appui. Et ça se termine d'une façon dramatique, mais Évidemment, la fille reproche toujours à sa mère de l'avoir arrachée à ce paradis dont elle l'a goûté, à ce paradis des enfants où elle se plaisait beaucoup, où il y avait beaucoup de rire, beaucoup de joie. Elle lui reproche toujours. Elle lui dit toujours, j'étais si bien, tu m'as pas demandé mon avis. Tu m'as arrachée à ce paradis sans me demander mon avis. J'aimerais y retourner plutôt que d'avoir cette non-existence qui ne me plaît pas du tout. Et elle pourra y retourner à la fin et voilà, on ne va pas en dire plus peut-être.
Non. Vous dites une chose qui est intéressante et qui permet peut-être de comprendre ce déni très très fort. Vous dites qu'au fond, si elle cède, si elle devient une mère ordinaire, celle qui se met à pleurer son enfant, alors elle va avoir un deuil qui va ressembler à celui de tout le monde. Il y a une sorte de détermination aussi dans cette posture qui est la sienne.
Oui, parce qu'elle s'effondrera. Elle se dit, je finirai ainsi. Si j'avais accepté ce que tout le monde s'est forcé de me faire accepter au départ, je ne sais pas ce que je serais devenue. Je serais dans un hôpital psychiatrique peut-être.
En fait, chez vous deux, on trouve peut-être une posture assez semblable, qui est celle de regarder, d'examiner les effets, les désastres d'une mort. Alors, soit d'un suicide, soit d'une mort violente, sur ceux qui restent. Parce que là aussi, c'est une mère.
Oui, c'est ceux qui restent.
C'est ceux qui restent.
Moi, j'avais une question juste pour comprendre, mais je l'ai pas lu votre livre, je suis désolée. Mais il semblerait que la fantasmagorie de la mère se sépare de son cerveau à elle et s'oppose à elle. C'est-à-dire que ce qu'elle crée de sa fille a une vie complètement autonome, puisqu'elle s'oppose à sa mère et ne fait pas ce que... J'ai comme un petit... Est-ce que je me trompe?
C'est une fille et une mère. Elle devient une fille ordinaire.
La mère, pour faire son deuil, s'imagine que sa fille n'est pas morte, elle l'amène en voyage comme elle avait prévu.
Oui.
Et une fois en voyage, la fille fait comme dans la vie à sa tête, et donc sa projection de sa fille se dissocie de sa propre, de sa propre façon de faire son deuil. C'est-à-dire, elle redevient vraiment vivante, c'est tout ça.
Oui. Alors pour la mère,
pour la mère, mais dans une opposition à elle et non pas dans une espèce de.
C'est-à-dire qu'au départ. Elle lui dit qu'elle verra des choses extraordinaires, qu'elle lui montrera le monde et tout. Au départ, ça se passe assez bien parce que c'était une fillette de 12 ans, assez soumise. Et petit à petit, cette fille grandit véritablement aux côtés de sa mère. Donc, uniquement sa mère.
Ce qui est très particulier, effectivement, c'est que la fille n'a d'existence que pour la mère.
Oui, il faut toujours.
Voilà. Ça, c'est, ça, il faut avoir ça en tête.
Il faut toujours
de l'imaginaire de la mère.
Voilà. Mais exactement. Elle une vie autonome.
Elle lui donne une vraie vie.
Elle lui donne une espèce de...
C'est ça. Elle l'a fait grandir.
Voilà.
Elle l'a
fait grandir, cette mère. C'est ça.
Elle l'arrache. Arrachée à la mort. C'est vraiment le terme.
Elle l'a arrachée à la mort véritablement.
Elle s'arrache de sa propre vie.
C'est une dimension fantastique.
Il y a une dimension absolument fantastique. C'est très étrange. Hein. On a parfois des sensations. C'est-à-dire que la déstabilisation vient du fait qu'on ne sait... Voilà, on ne sait jamais si on est dans le regard de la mère ou bien...
L'autonomie de la fille.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et c'est très étrange parce que d'habitude, quand pour les personnages me viennent... lentement, ils se développent, ils prennent du corps avec les mois, les années, et puis petit à petit, le récit se fait en moi. Mais là, ce sujet, pourtant, il n'y a eu aucun drame ces dernières années chez moi, c'est pas tiré d'un fait divers, c'est pas tiré de... Ça m'est tombé dessus comme ça, d'une façon magique. Et je n'ai jamais écrit quelque chose aussi rapidement. D'habitude, j'ai toujours mes petits carnets à 5 que je travaille au crayon, j'efface.
Ah, vous avez bousculé, hein?
Et là, j'ai voulu commencer à ma façon habituelle, là, à écrire au crayon. Là, j'y prends partout, dans les trains, partout où je vais. Et puis, ça allait trop vite. Hein. L'inspiration galopait. J'ai dû me mettre à l'écran tout de suite. Bon, j'ai beaucoup retravaillé après, évidemment. Mais le premier jet, en quelques mois, m'a été fait. Je ne sais pas d'où il m'est sorti, ce roman.
Ben justement, peut-être là, c'est une question qui peut vous concerner toutes les trois. Comment on prend à un moment la décision ? Alors, vous semblez dire qu'en ce qui vous concerne, ce n'est pas vraiment une décision. Mais enfin, comment est-ce qu'on arrive à un moment à prendre la décision de construire tout un roman sur une question aussi délicate et aussi compliquée, qui est celle d'aborder, une mort violente, que ce soit par suicide ou par disparition accidentelle, disons. Parce que ça suppose un traitement... assez délicat, assez compliqué, pour pas tomber, bien sûr, dans les choses sordides. Il faut être... c'est assez compliqué.
Le sordide est intéressant dans le roman. Oui. Mais non, moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai souvent abordé, et dans le théâtre, et dans le roman. Alors, c'était pas... Et moi, ce qui m'a vraiment donné cette idée-là, c'est de concevoir à quel point la société est dure envers ceux qui restent, à quel point la société est vive à exciter la culpabilité de ceux qui restent, à prêter aux gens une espèce de surdité devant le malheur de l'autre, à travailler un peu, ou alors à imposer le silence. Et les familles imposent souvent le silence sur le suicide. Et c'est très cruel pour ceux qui restent. C'est très pénible. C'est quelque chose qui les tue peu à peu. Et je peux le garantir parce que j'ai eu tellement de gens qui sont venus me voir pour me dire « J'ai pas eu le droit d'en parler. Quand j'ai lu votre livre, j'avais l'impression qu'enfin, on le disait pour moi. » Et je crois que le silence imposé ou la culpabilité supposée sont des choses qui me choquent énormément. Et c'est comme ça, j'ai eu envie tout à coup d'avoir des bras plus longs que les miens et de prendre les gens, ceux qui restent dans mes bras, et de leur dire, vous avez ici un petit repos, je ne vous jugerai pas. C'était ça que j'avais envie.
Catherine Cusset, oui.
Déjà, je vais illustrer...
C'est très beau, ce que vous venez de dire.
Je vais illustrer l'intensité du rapport mère-fille. Là. Vous voyez, je me suis très, très contrariée parce qu'il se trouve que juste à l'heure actuelle, j'ai une fille d'à peine 17 ans. Vous me direz qu'elle est bien grande déjà, mais elle est américaine et là, elle est à Paris. Comme je suis en Suisse, elle repart toute seule à New York, ce qui n'est pas évident, avec 3 valises à la fin de l'été. Et elle vient de m'appeler. Son avion est annulé. Elle est toute seule à l'aéroport et elle est en larmes. Et je dois vous dire que je ne suis plus tout à fait dans la même situation qu'il y a 10 minutes parce que je ne peux pas résoudre le problème. Je ne peux rien faire pour elle. Et voilà, j'espère juste qu'on va la mettre dans un avion. Je lui dis, tu es mineure, ils doivent te mettre dans un avion, tu ne peux pas rester toute seule à Paris. Donc voilà, donc du coup, je suis, vous voyez, tout à fait ce lien ombilical, c'est incroyable. Hein. Il suffirait que je sache que tout va bien et voilà, je me retrouverais comme j'étais tout à l'heure, parfaitement à l'aise. Mais là, je suis nouée. Mais alors pour le livre, mon livre qui n'a rien à voir avec le rapport mère-fille, celui-là, alors que beaucoup de mes livres ont à voir avec le rapport mère-fille quand même, c'est pour moi, ce livre, il relève à la fois du geste d'amour, de la dette et je dirais de la mission, si je puis dire. J'ai pas beaucoup de livres qui relèvent de la mission. Le geste d'amour, parce que cette amie, je pense, est tellement proche, enfin tellement en moi que je viens de vivre avec lui pendant 1 an et demi. C'est vraiment une année extrêmement heureuse où je me suis complètement... j'étais avec lui à écouter sa musique, à dire ce qu'il avait lu et à être dans lui. Quoi, voilà. La dette, pour une raison très particulière, c'est que cet homme avait été le premier lecteur de mon premier roman, le premier lecteur de mon deuxième roman, le premier lecteur de mon troisième roman. Donc quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'écriture pour moi. Et puis après, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une rupture, donc il n'a plus lu mes manuscrits. Mais à un moment, on s'était retrouvés, donc on était redevenus amis, et j'avais à un moment écrit un manuscrit sur mes amitiés, il y a quelques années, au début des années 2000. Vous savez, souvent, je prends l'inspiration, pas pour tous mes livres, mais très souvent dans ma propre vie. Je trouve que le rapport à l'autre est quelque chose de tellement intéressant que pourquoi nécessairement aller l'inventer quand il est tellement compliqué à dire à partir du réel. Et donc, j'avais écrit ce livre sur l'amitié. L'amitié étant souvent un rapport très compliqué, mais il y a un chagrin d'amitié comme il y a un chagrin d'amour. Et j'avais donc un chapitre sur cet ami qui était un ami très proche. Et je racontais à la fois notre amitié, mais aussi un peu sa vie. Et je le comparais à la fin de ce chapitre à l'albatros de Baudelaire, cet oiseau. Il était très grand, cet ami, avec des gestes très maladroits. Et je voyais cet oiseau avec ses ailes, ses ailes rognées comme ça, et qui est retenu prisonnier par les hommes d'équipage, qui est maladroit, gauche, veulé. Je citais l'albatros et je trouvais que c'est une très belle comparaison, mais je ne m'étais pas du tout rendu compte à quel point elle pouvait blesser la personne. Donc je pense qu'il y avait chez moi, en tant qu'écrivain, une forme d'insensibilité. Lui, je l'avais toujours eu comme ami tellement littéraire, et je pensais qu'il pourrait apprécier ce texte. Or, ce texte a été, je crois, une sorte de coup de poignard. dans lequel il a vu un miroir de sa vie qui était déjà un miroir d'une dégringolade. Mais moi, je ne savais pas vraiment qu'il s'agissait d'une dégringolade. C'est-à-dire que il me manquait la clé qui est arrivée des années après, qui était l'histoire de ce désordre des humeurs que j'ignorais complètement, dont j'ignorais tout parce que j'étais une personne très rationnelle qui croyait à la responsabilité, à la rationalité. J'étais totalement rationnelle. Je n'avais jamais rien vécu, finalement, en dehors de quelque chose quand même, mais hors de ce rationnel-là. Et ce texte, donc, il a réagi à ce texte en disant « Ton texte est complètement nul. C'est pas seulement qu'il m'a blessée, mais il est vraiment nul. Tu as une posture arrogante, tu es en surplomb. » Et puis il m'a dit « Tu sais, Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. » Et sur le moment, cette phrase « Tu sais, Catherine, les gens ont quand même une vie intérieure. » Je me suis dit « Bon, il est blessé, ça veut dire que mon livre l'a touché, donc ce livre doit être bon quand même, parce que si ça vous touche, c'est quand même... » Et puis je me suis dit « Il se venge parce qu'il est blessé. » Mais cette phrase est restée en moi et elle a travaillé. Et en fait, elle m'a rapprochée de lui. C'est-à-dire que des années après, je lui ai dit « Tu sais, j'ai compris ce que tu m'avais dit et j'ai compris que j'étais vraiment pas au bon endroit. » quoi. Et notre amitié est redevenue très, très proche avant sa mort. C'est-à-dire que je me suis dit « Après tout, c'est quand même pas... » J'étais quand même dans une échelle du succès social. Enfin, je sais pas, il y avait comme ça quelque chose de très faux, de très mauvais. Et j'ai compris, bon, voilà, on peut avoir une vie hors du temps et hors du succès social.
Elle est très forte, hein, cette phrase.
Ben oui, c'est parce que je me suis dit, mais vous l'avez donné, la vie intérieure de cet homme-là, dans votre roman. C'est exactement ce que vous avez fait.
C'est la dette. Hein, le roman, oui. Un ami m'avait dit, mais rends-lui vie, efface-toi, rends-lui vie. Et autant ce premier texte était quelque part sur moi et notre amitié et mon chagrin d'amitié, autant ce livre-là n'est pas sur moi. Je suis là comme personnage et amie, mais très peu présente. C'est un texte sur lui, voilà, qui lui rend vie. Et la troisième raison, je vous disais, c'est la mission, et je crois que j'en ai parlé un petit peu, c'est que, et ça rejoint ce que vous dites là, Marie Laberge, c'est qu'en effet, il y a un vrai silence hein, autour de ceux qui se sont suicidés ou qui ont sombré. Ils ne sont pas toujours suicidés, parfois ils ont sombré dans l'alcool et dans la drogue parce que c'est une forme d'auto-médicamentation. Tout à fait sûr du mot. Ils s'auto-médicamentent. C'est ceux-là qui n'ont pas été diagnostiqués, qui ne savent pas ce qu'ils ont, qui sont. Il faut quand même. La maladie mentale est quelque chose dont on parle très peu. Et le désordre des humeurs est un désordre d'origine chimique. C'est comme le diabète. Il manque quelque chose dans le cerveau, comme il manque quelque chose dans le sang. Mais les gens n'en parlent pas. Et il y a tellement de vies ratées à cause de ça. Et je voulais parler de ça, mais de l'intérieur, à partir de la souffrance. Donc voilà, et le livre a pu naître parce qu'il se trouve que dans ma vie, il y a quand même eu beaucoup d'histoires. Il y a eu 3 suicides, il y a eu d'autres bipolaires, il y a eu beaucoup de choses qui fait que tout s'est concentré dans ce livre-là.
Est-ce que je peux vous poser une question ?
Oui, bien sûr.
Dans la vie intérieure de votre Thomas, est-ce que le vrai Thomas a pris des libertés est-ce que vous avez inventé des bouts ? Est-ce que vous pensez qu'il s'est éloigné de l'homme qui était votre ami ? Est-ce que vous avez fait un espèce de...
Donc le personnage, personnage. Alors c'est compliqué parce qu'il me manquait véritablement des parts énormes. Il y avait des années dans lesquelles on ne s'était pas vus. Il y avait des femmes que je n'avais pas rencontrées. Il y avait des... Ou bien il m'avait dit, je savais qu'il y avait une rupture à un moment avec une Russe. On en avait tous rigolé entre copains. Vous voyez, c'est horrible.
Oui.
Lui, il voulait épouser cette Russe, elle a l'air complètement folle. Voilà tout ce qu'on en savait. Et moi, je reconstruis une histoire de l'intérieur. Mais alors j'ai donc d'abord écrit un premier jet qui m'est venu. Vous voyez qu'on parlait de... Un premier jet qui m'est venu et qui allait vers la mort. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un mouvement dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a une intuition de souffrance. Et la fin, je ne suis jamais allée dans certains endroits où il a vécu, mais il y a vraiment, ça va quelque part, le livre vient de cette voie. Et après, j'ai fait une enquête. Après coup, j'ai fait l'enquête après avoir écrit, je suis allée questionner. Alors, il y a des gens qui n'ont pas du tout voulu me parler, hein. Des gens m'ont dit, après le suicide, il y a aussi des gens qui m'ont dit, jamais, je ne veux pas du tout te dire. Mais le silence de certaines personnes m'a informée sur eux aussi, c'était très intéressant. Je voyais chez quelqu'un une rigueur, une intensité, je comprenais quelque chose de l'amitié qu'il y avait eu entre eux, mais avec en même temps, de ma part, une très grande culpabilité. Ai-je le droit d'écrire ce livre ? Il y a des gens qui m'ont dit, tu ne sais rien de lui, my gut, quelqu'un en anglais m'a dit, mais je sais au fond de mes entrailles que tu ne c'est rien et que ce que tu vas écrire est horrible. Et j'avais l'impression d'un anathème qui était jeté sur mon livre et c'était très très difficile. Et j'ai simplement pensé que je l'écris. Et si il n'est pas bon, alors comment savoir s'il n'est pas bon ? J'ai un sens intérieur, mais je fais aussi confiance à un petit comité d'amis avant même de le donner à l'éditeur. Et j'ai pensé, si la réaction est très modérée et très, eh bien, je ne le publierai pas. J'aurais passé 2 ans de ma vie, ben voilà, peut-être que c'est pas possible. Donc j'étais très très prudente, très prudente.
Et d'ailleurs, il y a une question importante que vous abordez alors par le traitement littéraire, et c'est une question que j'ai envie de vous poser aussi à toutes les trois. C'est la question de la distance, de la place de la romancière pour aborder le sujet. Alors vous, Catherine Cusset, en fait, vous choisissez de vous adresser à Thomas. Vous lui dites tu. Au lieu de raconter son histoire à la troisième personne, ça n'est pas il a fait ça, vous dites tu, Thomas, tu as, voilà. Donc tout le roman est construit sur le tutoiement. Oui. Alors, vous parliez tout à l'heure de dette. Ça, c'était une façon de vous rapprocher de lui, d'être...
Alors, je n'ai pas choisi. Ça s'est passé comme ça. Quand j'étais dans la piscine où j'ai eu cette intuition, c'était un tu. Mais pas un tu où j'avais l'impression de m'adresser à lui. J'avais l'impression qu'il s'adressait à lui-même. Vous savez, comment dire oh, tu as fait ceci. Et pour moi, c'est un tu intérieur. J'ai beaucoup de mal avec cette histoire de grammaire. Pour moi, c'est mon livre, il retourne la grammaire. Le tu est un je et le je est un elle. Bon, je ne vais pas vous perdre là-dedans, mais en fait, c'est une adresse à quelqu'un. Mais vraiment une façon d'être au plus proche, c'est une sorte de tu fraternel, c'est la façon d'être au plus proche. Mais en même temps, vous avez raison, c'est quand même une narratrice extérieure, parce que l'autre, après tout, c'est une façon, voilà, je ne peux pas le dire autrement, c'est une façon d'être au plus près.
Cette question de la distance, vous l'êtes posée également, Claudine Hourier, sur la bonne façon, la place que vous deviez, vous, en tant que romancière, avoir pour rendre cette histoire, disons, possible.
Alors, pour tout ce que j'écris, il faut que je m'identifie à mes personnages. Hein, toujours. Et cela, même si c'était une histoire très, très particulière et puis fantastique, je me suis identifiée à mes personnages. J'ai été la mère quand j'écrivais sur la mère. J'ai été la fille, j'ai été le père, j'ai été... voilà, tous mes personnages, ils ont fait partie de moi. Je parlais avec eux.
Pour ce qui vous concerne, Marie Laberge, comme c'est vrai que la préoccupation première de ce roman, c'est au fond de comprendre ce qui se passe chez ceux qui survivent, vous leur donnez à tous un jeu.
Ceux qui vivent.
Ceux qui restent. Voilà. Ils ont un jeu. Ils prennent la parole.
Ben là, il y en a trois qui parlent. Voilà. Et ceux qui ne veulent pas parler, je les ai fait parler. Voilà. C'est-à-dire que je les ai pris sur ma. De narratrice inconnue. C'est-à-dire que je n'ai pas dit, ah, c'est Marie ici qui va vous dire de quoi sur celle-là. Non. Mais il reste qu'il y a trois personnages qui parle chacun à sa façon. C'est sûr que le père essaie au début de dire qu'il écrit ça pour son petit-fils, pour que son petit-fils ait un jour une image de son père, ce qui est totalement faux. Il s'en rend compte tout de suite, ou à peu près. Charlène, notre barmaid, c'est sûr qu'elle l'apostrophe, donc c'est à lui qu'elle parle. Et c'est un chemin assez intéressant si on suit son chemin jusqu'au bout. Et Mélanie, sa femme, qui, elle, tourne autour de sa seule obsession, son seul amour, sa seule possession, et je dirais même ce qui nomme sa vie, c'est-à-dire son fils. Alors, elle a très peu de mots pour cet homme qui était son mari et le père. Elle n'a que des angoisses, que des anxiétés de possessive. Et de femme complètement axée sur une seule chose. « Oh, mon fils, est-ce qu'il va bien? » Alors qu'elle, elle commence à écrire, il est quand même assez âgé. Là. Il a passé 17 ans. Mais c'est elle, et on sait, à 17 ans, on sait qu'à 3 ans, c'était pareil, puis qu'à 2 mois, c'était pareil, que c'est l'affaire de sa vie. Et bon, évidemment, la vie joue toutes sortes de tours. Mais et tous les autres, comme la mère de cet homme-là qui est mort, qui est quand même, et la grand-mère, qui est la mère du père, le Vincent. Blanche est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une femme. Elle s'appelle Blanche et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment, je crois, la bonté incarnée. Mais tous ces personnages-là, c'est moi qui en parle parce qu'ils ne désiraient pas nécessairement parler à quiconque. Et puis j'ai dit, bon, ben, il faut quand même qu'on sache qui ils sont parce que c'était important.
Est-ce que je peux vous poser une question, justement, aussi? Est-ce que c'est basé sur une histoire du
c'est
tout
ce que
réel?
Demandé, voilà.
Non. Oh non, moi, j'écris jamais sur ce qui m'arrive.
D'accord.
Jamais moi, jamais... Non, jamais.
Vous connaissez forcément des gens qui
se sont tués, mais qui n'en connaissent pas.
Et des survivants de
pas des survivants, des vivants. Des gens qui se battent.
Ceux qui vivent, mais qui ont survécu aussi.
Je veux pas.
C'est vrai qu'on a tendance à dire survivants.
Non, justement.
Mais oui, mais c'est intéressant le fait qu'on utilise
cette expression-là. Je sais que ça vous vient plus fort que tout, mais pour moi, ça me vient plus fort que tout de dire non. On vit tous avec nos échecs, nos mauvais coups, nos culpabilités, et puis notre piètre opinion de nous-mêmes.
On survit tous, quoi.
On vit tous. Ah non, madame, on survit.
Survivre, c'est quand on a juste un poumon, quand il nous reste un demi-rein. Survivre, c'est quand
ça. On nous reste un demi-cœur.
Non, moi, je refuse le handicap. Non. Moi, je ne suis pas handicapée, même si je suis marquée.
Mais vous savez, Marie, c'est le verre vide et le verre plein, quoi. Et
malheureusement,
c'est la version du verre plein. Vous avez de la chance. Moi, j'écris tout un livre là-dessus, si je puis dire, qui était confession d'une radine. Et j'ai le malheur d'être de côté du verre vide. C'est-à-dire que dans la vie, j'envisage toujours la catastrophe. Vous voyez, c'est pas de ma faute. Hein, j'aimerais bien être comme vous.
Essayez d'attraper ma maladie. Elle est bonne.
Je vais l'attraper. Attendez, je vais mettre à côté. Mettez-vous, elle est contagieuse.
C'est peut-être contagieux.
J'ai les bras très longs. Et je vais vous en
voilà.
J'ai beaucoup d'amour. Je suis capable d'en donner beaucoup, beaucoup. Je suis un fleuve.
Vous avez dit quelque chose tout à l'heure en parlant de vos personnages. Vous avez dit ce personnage, je l'aime beaucoup. Oui. Mais c'est vrai qu'on a, on a des affections particulières pour certains de nos personnages, n'est-ce pas?
Hein? Même quand ils ne sont pas fins, je les aime.
Oui, d'accord. Ah, d'accord.
Même les meurtriers, je les aime. Je
oui, 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 on aime. Mais il y a des personnages qui nous sont encore plus chers que les autres.
Je ne sais pas c'est qui. Hein? Mais en tout cas, c'est vraiment, moi, si j'en aime pas un, je ne serais pas capable de l'écrire. Sincèrement,
oui,
là,
oui, ça c'est
je
juste.
Je ne rendrai jamais c'est justice, juste. Même dans son atrocité.
Mais vous avez dit
oui, que Blanche était parce que sa bonté me touche. Bizarrement, mm-hmm. Je sais que c'est moi qui l'ai écrit, là, on est d'accord. Inquiétez-vous pas, je suis au courant. Mais en dehors, pas moins que sa bonté profonde m'atteignait. Mm-hmm. Alors, c'est un peu comme si je me consolais moi-même.
Voilà, mais il faut pas oublier que c'est nous qui les avons créés, mais nos personnages, mais j'entends, ils prennent le pouvoir.
C'est pas faux, mais moi, en tout cas, je leur laisse tout le pouvoir, parce que sinon, ça va être plate. Là. Il faut que je me batte avec eux autres.
À peine créés, ils se... Voilà,
ils sont autonomes.
Ils
font leur vie. Bon. Une dernière petite question, puis après, on va permettre au public d'en poser à son tour. On se demandait tout à l'heure, un peu comme ça, en blaguant, mais au fond, c'est peut-être une vraie question. Est-ce un hasard si ce sont trois femmes qui se sont attelées à l'écriture d'histoires de suicide, de mort violente, qui sont, a priori, pense-t-on, des sujets un peu difficiles à aborder? Voilà, est-ce que vous avez là-dessus...
Je ne sais pas, je pense que on donne la vie, hein, les femmes donnent la vie. Alors, c'est sûr qu'on parle beaucoup de la vie et on parle des vrais sujets de la vie. Peut-être que quand je regarde Vincent, mon personnage, je le trouve tellement romantique. Et peut-être que c'est pas un accident si trois femmes ont décidé d'aborder les sujets les plus graves. Peut-être pas. Non, je pense que non.
Claudine Nourrier?
Oui, je suis assez d'accord avec Marie, oui. Oui. Bon, chez moi, c'est un peu particulier, voilà.
C'est vrai qu'à l'heure actuelle, juste en face de l'autre côté, il y a une table ronde d'hommes sur qui parlent du terrorisme, de la guerre. messieurs, vous êtes dans la mauvaise salle. C'était là-bas. Vous êtes égarés, là, dans le mauvais public. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose. Je sais pas, c'est toujours une question. C'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les femmes abordent plus de sujets, plus intimistes. Moi, il y a plusieurs choses qui me frappent sur ce sujet. D'abord, si vous demandez à quelqu'un, à un auteur, à n'importe quel auteur, la liste des auteurs qui l'ont marqué, qu'ils soient hommes ou femmes, très souvent, c'est des auteurs masculins qui vont ressortir. Je fais très attention à ça, parce qu'il y a tellement d'auteurs féminins que j'aime, qu'à l'heure actuelle, c'est presque par principe, je ne citerai plus que des auteurs féminins. Et dans le siècle passé, par principe, parce que vraiment, c'est... je trouve ça scandaleux, quoi. Et pourtant, j'adore évidemment Dostoïevski et Proust, vous vous en doutez, quoi. Mais justement, j'adore George Eliot, hein, je la trouve absolument extraordinaire, Charlotte Brontë, Madame de Lafayette, donc voilà, pourquoi ne pas aller de ce côté-là aussi. Deuxièmement, pour moi, il n'y a pas de littérature féminine, masculine, ou d'autofiction et de romans. Je vois uniquement des bons et des mauvais livres, des livres habités ou pas habités. Prenez un auteur comme Lionel Duroy, que j'aime beaucoup, dont j'ai beaucoup aimé le dernier livre. Bon, ben, c'est un homme, c'est peut-être un homme-femme, hein, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir de près. Mais enfin, a priori, c'est un homme. Et il a une écriture totalement intimiste. Ouais. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont écrit sur le suicide, la mort. Mais c'est vrai, quand même. Et vous prenez Karine Thuil, dont j'ai aussi beaucoup aimé le roman. Et c'est un roman sur le terrorisme, la guerre, l'Afghanistan. Donc, il y a
a quand même pas totalement de règles. Mais c'est vrai que j'aurais tendance à dire que Lionel est un auteur plus féminin et que Karine a écrit un livre d'homme. Donc on va retomber dans cette séparation. C'est possible. Et c'est possible que justement, comme vous le dites, Marie Laberge, les femmes sont plus... cherchent moins un sujet de roman, comme ça, comme peut-être chercheraient des auteurs masculins, qu'être branchées sur la vie, quoi, sur le rapport à l'autre, sur...
Mais c'est drôle aussi, même leur façon d'écrire. Moi, j'ai fait une table ronde à un moment donné, il n'y avait que des hommes. Je me sentais tellement éloignée d'eux dans ma manière de penser ou de me jeter à l'eau quand j'écris. Et ils n'étaient pas du tout... Enfin, tout ce qu'ils expliquaient,
très
ça me faisait...
Oh
my God, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils sortaient d'une autre planète. Ah, c'est ça, hein. C'est Mars.
C'est ça, vous voyez.
Bien, on va prendre le temps d'accueillir quelques questions.